Bonjour à tous. Nous ne nous sommes pas concertés avec Siger, mais il a commencé ce culte par des paroles que Moïse a prononcées à la fin de sa vie. Et je me propose de méditer avec vous ce matin le psaume 90, qui est le seul psaume rapporté comme étant psaume de Moïse, bien que Moïse, en effet, à la fin de sa vie, ait chanté les louanges de Dieu et prononcé aussi des paroles pour servir de témoignage pour le peuple d'Israël à la suite de tout ce qu'il avait fait avec eux et pour eux. Je lis donc avec vous ce psaume 90 qui est intitulé « Prière de Moïse, homme de Dieu ». Quelques-uns des psaumes sont ainsi intitulés « Prière ». Mais c'est le seul psaume qui soit attribué à Moïse. Moïse, homme de Dieu, c'est-à-dire prophète, celui qui parle au nom du Seigneur. Ô Seigneur, d'âge en âge, tu as été notre refuge. Avant que soient nées les montagnes et que tu aies créé la terre et l'univers, de toute éternité et pour l'éternité, toi, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière et tu dis aux humains, retournez-y, car 1000 ans à tes yeux sont comme le jour d'hier qui est déjà passé, comme une seule veille au milieu de la nuit. Tu balais les humains comme un peu de sommeil qui s'efface à l'aurore. Ils sont pareils à l'herbe qui fleurit le matin, qui passe et qui, le soir, se fane et se flétrit. Nous sommes consumés par ta colère. Ta fureur nous effraie. Tu as mis devant toi tous nos péchés et tu mets en lumière tout ce qui est caché. Tous nos jours disparaissent par ta colère et nos années s'effacent comme un murmure. Le temps de notre vie, 70 ans au mieux, 80 ans pour les plus vigoureux, et leur agitation n'est que peine et misère. Car le temps passe vite et nous nous envolons. Qui peut connaître l'intensité de ta colère? Qui te respecte assez pour tenir compte de ton courroux? Apprends-nous donc à bien compter nos jours, afin que notre cœur acquiert la sagesse. Tourne-toi de nouveau vers nous, ô Éternel. Jusqu'à quand tarderas-tu encore? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous tous les matins de ton amour et nous crierons de joie, pleins d'allégresse, tout au long de nos jours. Rends-nous en jours de joie les jours de nos épreuves et en années de joie nos années de malheur. Que ton œuvre apparaisse envers tes serviteurs et que leurs descendants découvrent ta grandeur. Que la tendresse du Seigneur notre Dieu repose sur nous tous. Fais prospérer pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, fais prospérer l'ouvrage de nos mains. Prière adressé au Seigneur de la vie. C'est un témoignage qu'apporte ici Moïse, comme il le fait en effet dans ses textes rapportés à la fin du livre du Deutéronome. Un témoignage, il dit sa foi en Dieu, il dit ce que Dieu est pour lui. Et en même temps, il nous livre une méditation sur la condition humaine, la brièveté de la vie de l'être humain, sa condition de pécheur devant Dieu, ce qui entraîne la colère de Dieu et le châtiment par la mort de l'homme. Face au caractère tragique d'une telle condition, Moïse demande à Dieu d'apprendre à l'être humain la sagesse et de manifester sa miséricorde et son amour à l'égard de ses créatures. Au cœur de ce poème, au milieu de ce texte, nous avons une description de la colère de Dieu et du pourquoi de cette colère. Des éléments d'histoire nous permettent de mieux saisir la portée de ce que nous dit ici Moïse. Le cœur de ce poème semble se rattacher à un arrière-plan historique précis. Ce sont les derniers mois de la 38e année de vie errante du peuple dans le désert. Vous savez que le peuple d'Israël a été pendant 40 années en pérégrination dans le désert. Nous sommes donc tout à fait à la fin de ce parcours. C'est le moment où la génération qui avait quitté l'Égypte à l'âge adulte était tombée, était morte dans le désert. Elle était en train de mourir rapidement selon ce que Dieu avait dit, puisque cette génération avait manifesté à tant de reprises son incrédulité à l'égard de ce que Dieu avait dit et de ce que Dieu avait fait pour eux et de ce que Dieu était en train de faire pour eux en les amenant de l'Égypte à Canaan. À un moment donné, Dieu leur a annoncé le châtiment parce qu'ils avaient dit « Nos enfants mourront dans le désert ». Et Dieu leur a dit « Puisque vous n'avez pas cru à ce que je vous ai annoncé, c'est vous qui mourrez dans le désert. Toute la génération adulte qui est sortie d'Égypte mourra dans le désert. Et vos enfants, dont vous avez dit ils vont être une proie, c'est eux qui vont entrer dans le pays de la promesse. Ce sont vos enfants qui entreront en Canaan. » Et c'est ainsi que Moïse parle de cette génération, de ces membres du peuple sont en train de mourir, et cette impression qu'Israël meurt est accrue par le jugement de son obstination à ne pas croire. Et nous avons là le cadre dans lequel Moïse prononce sa prière, celle que nous venons de lire. Cette prière commence ainsi. Ô Seigneur, d'âge en âge, tu as été notre refuge. Depuis l'époque d'Abraham, le peuple de Dieu n'a jamais eu d'habitation fixe. Mais on pourrait dire que l'Éternel s'est toujours montré comme son lieu permanent de repos. Oui, l'Éternel s'est toujours montré comme son lieu permanent de repos. Dans ce texte cité par Sigère, il y a aussi cette parole « Le Dieu d'éternité est un refuge, et sous son bras éternel est une retraite. » Dieu, le refuge, la retraite de son peuple d'Israël. C'est ainsi que commence ce psaume de Moïse. Le début du psaume parle d'une relation de paix avec Dieu. Non seulement il habite avec nous, avec son peuple, c'est sa présence qui est là, mais nous habitons avec lui. C'est le privilège du peuple réconcilié avec son Dieu. À l'opposé de cette vérité fondamentale, le psaume considère la brièveté pitoyable de la vie humaine et la réalité de la colère de Dieu. Terrible et tragique condition humaine. Et pourtant, nous trouvons donc dans ce psaume moins une plainte qu'une prière confiante. La tristesse sera changée en joie quand l'Éternel reviendra de sa colère. Bien différent, en effet, des grands poètes païens, le psalmiste ne se débat pas contre un destin aveugle et impitoyable, mais il prie le Dieu vivant. La grandeur infinie de ce Dieu et la condamnation dont il frappe le péché sembleraient devoir être, pour le psalmiste, un sujet d'effroi. Mais non, c'est de l'Éternel qu'il attend la joie, et c'est auprès de lui qu'il se retire. Le Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses bras éternels habite celui qui se confie en lui. Ses bras sont une retraite pour celui qui se confie en lui. Oui, Moïse témoigne de ce fait essentiel, que son Dieu l'Éternel est son refuge pour toujours. Nous avons aussi d'autres paroles dans d'autres psaumes qui ne sont pas de Moïse, mais qui disent la même chose, qui disent combien Dieu est le recours, le refuge, le lieu de l'apaisement. Voici ce que dit l'auteur du psaume 73, Asaph. Je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Selon ton plan, tu me conduis, puis tu me prendras dans la gloire. Qui ai-je au ciel si ce n'est toi? Ici-bas, que désirer, car je suis avec toi. Mon corps peut s'épuiser et mon cœur défaillir. Dieu reste mon rocher et mon bien précieux pour toujours. Qui t'abandonne se perdra, et tu anéantiras tous ceux qui te sont infidèles, tandis que mon bonheur à moi, c'est d'être toujours près de Dieu. Oui, j'ai placé dans le Seigneur, dans l'Éternel, mon sûr refuge, et je raconterai toutes tes œuvres. Nous avons aussi, nous pourrions en citer beaucoup, des textes comme celui-là, au début du psaume 46. Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours, toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Dieu est mon refuge, d'âge en âge, tu as été notre refuge. Mais Dieu, lui, est vraiment l'Éternel. Avant que soient nées les montagnes, que tu aies créé la terre et l'univers, de toute éternité et pour l'éternité, toi, tu es Dieu. Dieu, l'Éternel. Nous avons ici une des plus fortes affirmations bibliques de l'éternité de Dieu. Dieu survit aux choses qui durent le plus longtemps dans l'expérience humaine. Pour un être humain, regarder les montagnes et les rochers, c'est regarder à ce qui ne bouge jamais, en principe. Mais Dieu est au-delà de cette force, de cette nature immuable. La structure même de la terre est l'élément de comparaison qui parle de ce qui dure beaucoup, mais Dieu est au-delà. En vertu de la décision divine, en face de cette éternité et de cette durée de Dieu infinie, il y a l'être humain qui, lui, est tout pétri de faiblesse et de fragilité. En vertu de la décision divine sur l'humanité déchue, cet homme est destiné à mourir. Dieu vit au-delà des plus grandes mesures humaines du temps. Quel contraste entre les manières dont l'homme et Dieu perçoivent le temps. Pour Dieu qui a créé le temps, il était avant le temps, il sera après le temps. 1000 ans représentent pour l'homme une durée inaccessible, bien au-delà de sa longévité possible. Mais pour le Dieu éternel, ces 1000 ans ne sont pas grand-chose. Le temps est ressenti par l'homme comme une limite, mais pas pour l'éternel. Pleinement maître du temps, il est le Seigneur du temps qu'il a lui-même créé. La brièveté et la fragilité de la vie des humains sont très fortement soulignées dans ces versets que nous avons cités. 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier qui est déjà passé, comme une veille au milieu de la nuit. Tu balais les humains comme un peu de sommeil qui s'efface à l'aurore. Ils sont pareils à l'herbe qui fleurit le matin, qui passe et qui le soir se fane et se flétrit. Brièveté, caractère éphémère de la vie humaine. Et puis, il y a l'autre élément qui vient saisir l'être humain, mis en présence de la brièveté de sa vie. C'est la colère de Dieu à cause du péché de l'être humain. Ces deux éléments se conjuguent pour le plonger dans la détresse, dans le désarroi. Nous sommes consumés par ta colère, ta fureur nous effraie. Tu as mis devant toi tous nos péchés et tu mets en lumière tout ce qui est caché. Tous nos jours disparaissent par ta colère et nos années s'effacent comme un murmure. Brièveté de la vie plus colère de Dieu. Cette double réalité épouvante les êtres humains lorsqu'ils en prennent conscience. Et c'est cette colère de Dieu qui ruine la vie et fait même de son prolongement une bénédiction ambiguë. Le temps de notre vie, 70 ans, au mieux 80 ans, pour les plus vigoureux, et leur agitation n'est que peine et misère. Cependant, il faut considérer ici quelque chose d'un peu particulier. C'est que cette affirmation, que nous venons de rappeler encore une fois, 70 ans de durée de vie au mieux, et 80 ans pour les plus vigoureux, c'est une parole qui est prononcée par un homme qui a atteint 120 ans. Et il n'a pas été le seul à atteindre cette durée. Son frère, Aaron, est mort à 123. Marie, leur sœur, à 130. Eh oui. Et Caleb, on ne sait pas trop, mais c'était à peu près du même ordre. Dans ces conditions normales, à l'époque, on vivait plus que 70 et 80 ans. Il faut noter ce contraste, parce que je pense qu'il y a là quelque chose qui souligne encore davantage le fait que dans ce peuple qui a manifesté tant d'incrédulité, la durée de vie avait été en quelque sorte raccourcie par rapport à ce que d'autres faisaient autour, par leur incrédulité et par leur conduite et par leur péché. Si le peuple n'avait pas été sous le jugement de Dieu, la durée de vie aurait été certainement plus longue pour eux à cette époque. Elle aurait dépassé les chiffres de 70 et 80 ans. Cependant, même ainsi, les hommes n'ont pas conscience de ce que signifie la colère de Dieu. Ils ont tellement souvent recommencé à être incrédule et à chercher à revenir en Égypte. C'est pour cela que Moïse, dans son témoignage et dans son psaume, mêle aussi le rappel de cette réalité à ceux auxquels il s'adresse, et il les interpelle. « Qui peut connaître l'intensité de ta colère ?» dit-il à ceux qui sont avec lui. « Qui peut connaître l'intensité de la colère de Dieu ? Qui te respecte assez pour tenir compte de cette colère ?» Et c'est après cette interpellation que nous trouvons cette parole qui est certainement une des plus connues de ce psaume. « Apprends-nous donc à bien compter nos jours, afin que notre cœur acquiert la sagesse. » La vie humaine se trouve entre deux points. La colère de Dieu qui la rend éphémère et la paix de Dieu qui lui donne la stabilité et la force et la durée. Et c'est cette dernière expérience que demande la prière de Moïse. La paix avec Dieu, la réconciliation avec Dieu. Qui peut connaître l'intensité de ta colère ? Apprends-nous donc à bien compter nos jours, afin que notre cœur acquiert la sagesse. Ainsi donc, la prière de Moïse s'adresse à son Dieu, son refuge, pour lui dire « Seigneur, apprends-nous. Seigneur, instruis-nous. Seigneur, enseigne-nous. » Et nous voulons entendre cette parole comme si Moïse priait pour nous. « Apprends-nous donc, Seigneur, à bien compter nos jours, afin que notre cœur acquiert la sagesse. » Apprends-nous à bien compter nos jours. Si on s'arrêtait là, ça pourrait être pour nous désoler d'avoir une vie si courte. On trouve, quand l'âge vient, que le temps s'accélère. Mais c'est pour que nous acquérions la sagesse. C'est-à-dire la meilleure façon de vivre, la meilleure façon de considérer notre vie et ce qui est autour de nous. Apprends-nous, Seigneur. C'est Dieu qui donne la stabilité. C'est cette dernière expérience que demande la prière de Moïse. Elle demande donc un changement d'attitude, d'abord de la part de l'homme, afin qu'enseigné par Dieu, il puisse apprendre la sagesse dans sa vie brève. Puissions-nous continuer tous les jours de notre vie à apprendre la sagesse de Dieu pour bien considérer et les éléments de notre vie et tout ce qui est autour de nous. Apprends-nous la sagesse. Et puis, il demande de la part de Dieu, « Tourne-toi de nouveau vers nous, ô Éternel. » Jusqu'à quand tarderas-tu encore ? Aie pitié de tes serviteurs. Moïse demande à Dieu de revenir de sa colère pour avoir pitié de cette humanité pécheresse. Il faut que cette juste colère de Dieu puisse faire place à sa tendre pitié, sa tendresse, son amour. Car le salut repose toujours en dernier lieu sur le plaisir de Dieu pour pardonner. Dieu éprouve un grand plaisir à pardonner les pécheurs. Seigneur, tourne-toi de nouveau vers nous. Ô Éternel, jusqu'à quand tarderas-tu encore ? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous tous les matins de ton amour. Et nous crierons de joie, pleine d'allégresse, tout au long de nos jours, tout au long de notre vie. La joie est celle de la réconciliation avec Dieu. Cette joie qui va durer jusqu'à la fin de nos jours et jusque dans l'éternité, parce que nous sommes avec le Seigneur. Et puis, Moïse termine sa prière en demandant à Dieu de prolonger cette action bienfaisante, sa réconciliation avec les êtres humains. Que ton œuvre apparaisse envers tes serviteurs et leurs descendants, afin que leurs descendants découvrent ta grandeur. Que Dieu agisse dans la durée pour que ceux qui viennent après nous, dit Moïse, puissent connaître le Dieu d'éternité, le Dieu éternel, le Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Et que ainsi, comme dit la fin de notre texte, que la tendresse du Seigneur notre Dieu repose sur nous tous. Fais prospérer pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, fais prospérer l'ouvrage de nos mains. Fais prospérer le témoignage de ton peuple. Fais prospérer la foi de ceux qui disent « L'Éternel est mon secours, l'Éternel est mon berger, l'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ?» Que le Seigneur soit celui qui renouvelle et qui prolonge cette action bienfaisante de sa miséricorde, de son secours et de son salut. Et nous voyons bien, en conclusion de ce psaume, comment la prière est adaptée à tout ce que Moïse vient de dire. Un besoin de connaissance. Qui peut connaître l'intensité de ta colère? Pour répondre à ce besoin de sagesse et de connaissance, la prière pour que Dieu vienne nous donner la vraie sagesse. L'expérience de la colère qui fragilise encore un peu plus cette vie humaine si fragile, si brève, et la prière pour le salut. Seigneur, reviens, tourne-toi à nouveau vers nous et aie pitié de nous, rassasie-nous tous les matins de ton amour. Et puis cet état passager de l'être humain qui va vers sa fin. Et puis la possibilité de regarder vers l'avenir, vers la prolongation de cette action miséricordieuse de Dieu pour les générations futures, pour qu'elles apprennent elles aussi à connaître qui est l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu de Moïse. Voilà le psaume que ce grand serviteur de Dieu, ce grand prophète, a laissé à son peuple et à toute la postérité. Et voici ce que nous recevons de sa part. Ce miracle de Dieu qui revient de sa colère et qui nous manifeste son amour, et nous savons jusqu'à quel point il a manifesté son amour, jusqu'au miracle de cette paix avec Dieu, de la délivrance définitive de la colère et de la sécurité éternelle que nous avons en Jésus-Christ. Je voudrais ici, et en préparation du partage du pain et du vin que nous allons vivre ensemble, rappeler ce que nous avons pleinement en Jésus-Christ. Je lis avec vous au chapitre 5 de la lettre de Paul aux Romains. Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous avons eu accès au moyen de la foi, à ce don gratuit de Dieu dans lequel nous nous trouvons désormais établis. C'est ce que demandait David dans sa prière. Établi cette œuvre durable, fait prospérer l'œuvre de nos mains, donne-lui la durée, dans lequel nous sommes établis et nous avons notre fierté qui se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a donné. Amen. Je vous invite à vous lever pour que nous chantions ensemble au Fils de Dieu.